Alors, je profite de la fin du disque pour signaler donc que vous êtes en train de dessiner les prochaines planches du Lock Groove, j'imagine.
Voilà. Ce Lock Groove 3 qui est très 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 en retard. C'est pour ça que j'ai tenu à passer des disques aussi ce soir. C'est que c'est une série de bandes dessinées qui parle de musique et essentiellement rock.
On peut expliquer le titre ? On peut revenir sur la signification de...
Le Lock Groove, à la base, c'est le sillon final d'un disque vinyle. Donc, tout disque vinyle en a. Donc, le disque vinyle est une chose qui appartient à une autre époque, mais qui continue à exister souterrainement. De nombreux groupes exigent toujours d'avoir quelques vinyles s'ils font un nouveau disque, même si c'en est 500 ou 1000. Les Sonic Youth, par exemple, n'ont jamais arrêté de demander à avoir des vinyles. Et le Lock Groove, c'est le dernier sillon. Et le dernier sillon, il a deux fonctions. Soit il permet à la cellule de ne pas déborder comme une conne sur le milieu du disque, ce qui arrive, par exemple, dans des manufactures douteuses, par exemple les disques pirates ou les labels qui se mettent au travail. Et il peut être enregistré aussi. Il peut être enregistré, et donc c'est quelques secondes de musique qui tourne en boucle infinie. Et ça m'a toujours fasciné. Je ne suis même pas sûr d'en avoir amené pour illustrer ce propos, malheureusement. Le premier historiquement admis des Lock Groove, c'est celui qui est à la fin du Sgt. Pepper des Beatles, 67, qui est incroyable. Et ce que je raconte dans le premier volume de Lock Groove Comics, donc pour l'instant il y en a deux hein, seulement. J'ai du mal à coucher du troisième. C'est ce que j'essaye de faire un peu aujourd'hui. Et comment dire ?
Donc le celui des Beatles, tu dis ?
Oui, ben en fait celui-là je l'ai découvert. Un peu par hasard, parce que j'ai acheté une copie d'occasion du premier tirage anglais. Parce que après, les retirages n'avaient plus ce Lock Groove. Donc il y a aussi cette espèce de complication de devoir trouver des tirages originaux pour avoir l'intégralité de ce qui est conçu par le groupe au moment donné. Et par exemple, si on écoute un CD de Sgt. Pepper, enfin, il y en a sûrement eu plusieurs versions aussi, mais on entend la fin de A Day in the Life comme normal, mais après, le groove commence, passe quelques fois, 7-8 fois, et puis est chanté, etc. Et ça n'a aucun sens, parce que c'est pas un morceau, c'est un anti-morceau en fait. Mmh. C'est un morceau d'après, et ça fait pas partie de A Day in the Life. Et quand on écoute le CD du commerce de Sgt. Pepper, c'est ce qu'on est appelé à entendre.
Donc cette série, c'était aussi une manière de parler de musique en bande dessinée. Les deux sujets de rock, surtout bien sûr de punk. Les deux sujets sont connectés depuis longtemps, bizarrement, et en même temps très différents. Vous, votre découverte de la musique, elle est parallèle à votre pratique de la bande dessinée ou pas particulièrement ? Quel est le lien entre la bande dessinée et la musique, pour résumer la question, quoi, en fait, pour vous ?
En ce qui me concerne, oui, bande dessinée, rock'n'roll, ça a toujours été lié, toujours. Et parce que c'est deux contre-cultures que j'ai découvertes en même temps, à l'adolescence. Enfin, mais la bande dessinée, c'était un peu plus tôt, c'était plutôt à l'enfance. Et la musique un peu plus tard, mais en même temps, j'y ai toujours vu beaucoup de liens. Bon, après, le fait qu'il y ait Métal Hurlant qui mélange les deux, ça a encore évidemment plus aidé. Mais j'y vois vraiment presque aucune différence. Alors, bon, tout comme il n'y a pas de différence avec la littérature et avec la poésie non plus. Hein.
Mmh. Baru dit que le rock est, comment dire, animal, enfin qu'il touche à une partie du cerveau qui n'est pas liée à la réflexion du tout, à l'intellect en fait, à quelque chose qui est plus une pulsion qu'autre chose. C'est pas vraiment le cas de la bande dessinée par contre.
Ça peut dépendre. Mmh. Ça peut dépendre. Dans mon cas personnel, j'ai fait des planches comme j'aurais pu faire des morceaux punk. De rock'n'roll. Oui. Mais ça dépend des circonstances.
Vous dessinez en musique ?
Toujours.
Mais pas en changeant à chaque morceau, vous mettez un disque...
Comment ?
Vous ne changez pas à chaque morceau de disque, comme ce soir, si ?
Ça peut m'arriver, non. En général, j'écoute des albums du début à la fin, en dessinant. Et puis, quand je me fais une séance 45 tours, comme c'est long, compliqué, je fais que ça.
Et ça a une influence sur le dessin ? L'énergie de la musique ou pas du tout ? C'est séparé ?
Non. L'énergie du rock'n'roll, elle rentre dans le trait. Et mon trait, il a été complètement nourri de cette musique-là. Si je n'avais pas connu cette musique-là, je pense que j'aurais un trait neutre. Et je sais qu'il est habité, parce qu'il est habité par cette musique-là. Je peux vous mettre un petit morceau ?
Oui, bien sûr.
Ça s'appelle My Stars et c'est d'Alice Cooper. Voilà.
À quoi ça correspond, Alice Cooper, dans le parcours de Jean-Christophe Menu ? Puisqu'il est question quand même presque de témoignages personnels. C'est pas seulement une série sur la musique, Love Groove. C'est presque autobiographique, on peut le dire comme ça.
Bah, ce disque particulier qui s'appelle Schools Out, il a une histoire. Il a vraiment une histoire. Regardez, il y a un tampon là qui s'appelle Comité d'établissement, siège social... Babcock Atlantique. Pourquoi est-ce que j'ai ce disque ? Parce qu'il provient du comité d'entreprise de mon papa, qui empruntait des disques dans sa société et qui m'a amené des choses alors qu'il ne s'en doutait pas.
Vous lui demandiez des choses précisément ?
Au bout d'un moment, oui, mais bon, il amenait un peu du tout venant. Enfin, c'est-à-dire que c'était un truc d'emprunt, il empruntait des choses. Mais
c'était pour lui ou pour vous ?
Oh, bah, c'était pour lui, mais bon, il espérait me faire plaisir aussi. Et puis, de temps en temps, je tombais sur des choses intéressantes. C'est comme ça que j'ai découvert les Beatles, les Doors, les Zeppelin, etc. Mais ce qu'il y avait d'intéressant aussi dans ce comité d'entreprise, c'est que quand les disques, il y avait une fiche sur... les disques étaient dans une sorte de pochette plastique avec un emplacement pour une fiche d'emprunt. Et si la fiche d'emprunt était arrivée à son terme, c'est-à-dire que si le disque avait été emprunté 40 fois, il était mis en vente 5 francs. Et donc, de temps en temps, mon père achetait des disques qu'il avait su que j'aimais pour 5 francs. Et celui-là, il l'avait acheté par hasard parce que bah, il était là. Quoi. Et il m'a dit, bah, écoute, voilà. Et ça a été une énorme claque. Alice Cooper, quand j'étais jeune, voilà pourquoi je vous l'ai mis.
Qu'est-ce que c'est la planche que vous êtes en train de faire, cauchemar là ? C'est un vrai cauchemar ?
Oui. C'est c'est pour Lock Groove, mais c'est un vrai rêve, donc un vrai cauchemar en fait. Oui.
Récent ou justement qui de date, jeunesse?
Non, qui date de cet été. C'est un cauchemar que j'ai fait de cet été. Oui. C'est voilà, si, je sais pas si
vous lisiez.
Voilà, je peux essayer de le lire. Donc là, je me représente dans ma chambre. Je suis réveillé par une forte musique, visiblement jouée live par des gens sur mon toit. Je reconnais bien le morceau qui passe en boucle, c'est le Comanche de Link Wray. Je vous ai mis du Link Wray tout à l'heure, je croyais que j'avais Comanche sur ce best-of et je ne l'avais pas, donc je vous ai mis Rumble. Mais ce n'est pas lui qui le joue, c'est Billy Childish. Mince, Billy Childish est sur mon toit. De fait, Billy Childish a vraiment repris Comanche. Mais j'avais oublié. Je m'en suis rappelé qu'après.
L'érudition rock se poursuit dans les rêves. Donc.
Ah oui, complètement. Ouais. Habituellement, Comanche est un instrumental dont le refrain est composé de seuls mots, scandé alors que les instruments s'interrompent. Comanche! Mais dans cette version, le chœur féminin, les headcoaties, je présume, chantent à la place du mot Comanche. Nous sommes les filles du bon samaritain. Et donc ça fait, il faut imaginer le morceau de Link Wray, donc. Nous sommes les filles du bon samaritain. Alors la guitare reprend son... Qu'est-ce que j'ai du mal à me lire ? Ah oui. La guitare reprend son thème et ça n'en finit pas. C'est assez asphyxiant. Ça n'arrête pas, en fait. Nous sommes les filles du bon samaritain. Je dirai après ce qui se passe ici, parce que c'est une autre narration, parce qu'en fait, ça se passe en double page. Et donc, la suite de ça se passe là, alors que le double strip du bas... est un truc parallèle que je dirai après. Donc là, c'est la case que j'étais en train de faire. Donc c'est la suite du cauchemar. Alors que cette litanie semble sans fin, je sens une présence dans la chambre. Présence invisible, présence féminine. Donc là, je suis en train de dessiner ça. Je suis dans mon lit. Je vois, je sens une sorte de fantôme. Présence fantomatique. Il y a quelqu'un et je vois des mains gantées arriver vers moi. Donc c'est la terreur absolue. Je suis tétanisé. Les mains gantées de blanc s'emparent de mon bras droit. L'une des mains semble me tâter le pouls, l'autre me caresse très bienveillamment. Le noir est absolu, sauf les gants blancs de cette infirmière potentielle dont je ressens surphysiquement le moindre des gestes. Je me réveille en sursaut. Il n'y a pas d'infirmière, pas de gants blancs. Mais le morceau de Billy Childish et des Headcoaties est toujours là. Nous sommes les filles du bon samaritain. The Undertones.
Et ce morceau, il y a un souvenir en particulier ?
Non, il est juste génial, c'est tout.
Voilà.
Ah bah, les Undertones, ce morceau-là, il doit dater de 78, quoi.
Vous aviez 14 ans.
Oui, bah, j'ai pas connu ça à l'époque.
Là, j'ai une question un peu qui relève un peu de la, comment dire, de l'artisanat, mais. Les planches là qu'on voit, il y a il n'y a pas un crayonné, mais il y a une espèce de composition, enfin d'esquisse qui est en dessous. Avant.
Ah ça là.
Oui.
Ah oui, bah, je peux le montrer. C'est comment j'ai.
Penser l'économie de la page, quoi, en fait.
Ben comment je l'ai écrite, en fait. Je l'ai écrite comme ça. Et il y a déjà presque tout sur cette page, oui. Donc, là, par exemple, la case que je suis en train de faire ici, elle est là, dans le brouillon. Elle est presque mieux, d'ailleurs, hein, comme souvent dans les brouillons. Hein. Donc, cette image-là, avec les gants blancs qui arrivent vers moi, je vais essayer de la faire aussi bien dans le définitif que là, mais tout est là, en fait. C'est l'écriture de la bande dessinée, ça se passe là. Ça se passe absolument à ce moment-là. Et ce qui est très
donc
important.
Donc les mots et les images viennent simultanément, avec en plus l'idée de la composition même de la double page.
Oui, tout vient en même temps. C'est pour ça que c'est un vrai langage. C'est que l'écriture, le dessin, la séquence sont absolument indissociables et surgissent en même temps. Et la preuve en est là, quoi.
Sur quoi vous avez soutenu une thèse de doctorat la semaine dernière ? J'ai pas pu assister, peut-être que la plupart des personnes qui sont ici non plus. Elle va être publiée, cette thèse, je crois.
Elle est censée être sous presse, oui.
Quel est le sujet, le titre ? C'est la bande dessinée et son double, si je ne me trompe pas. Son double, c'est quoi ? C'est-à-dire l'idée de le rêve de ce que pourrait être la bande dessinée vraiment ? Qu'est-ce que c'est, en fait, l'idéal, comme la littérature avec un grand L, le grand livre ?
Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que ça se réfère évidemment à Antonin Artaud et au théâtre sans double, mais pas à l'aspect corporel du théâtre sans double, mais à l'aspect alternatif de la façon qu'il avait de chercher des concepts obliques pour contrecarrer la médiocrité du théâtre de son époque. Et quand j'ai commencé ma thèse, j'ai découvert ce livre, ou je l'avais déjà découvert, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le contexte de la bande dessinée de la fin des années 80 m'inspirait autant de dégoût que le théâtre de divertissement pouvait en inspirer à Artaud dans les années 30. Lui, il parlait de mitraille pour régler ce problème. Donc, voilà, c'est un écrivain qui m'a beaucoup marqué. J'ai repris à mon compte ces postulats, mais il n'y a pas qu'Artaud. Il y a eu Bataille, il y a eu Blanchot, il y a eu les situationnistes, il y a eu beaucoup de choses. Et tout ça a fait un gros mélange avec la pratique de la bande dessinée qui est pas très très fréquent et pas très 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 reçu ordinairement, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de formuler à travers cette thèse qui a été effectivement soutenue samedi dernier et dont la version livre est sous presse et est censée être présentée à Angoulême. Voilà.
Elle le sera. De toute façon. Ne serait-ce qu'avec une rencontre, au moins.
Sauf erreur, oui, elle le sera. Voilà. Mais cette idée du double, elle va plus loin que ça pour moi. Parce que je me suis toujours senti double. Et j'ai jamais rien fait dans ma vie sans qu'il y ait au moins deux raisons de le faire. S'il y a une raison de faire une chose, c'est pas la peine de la faire. Il faut qu'il y ait deux raisons de faire les choses. Minimum.
Petit morceau ?
Oui. Il y a un micro qui est juste devant, si vous souhaitez poser des questions. Je laisse un peu la musique aussi s'installer, évidemment, mais si vous souhaitez vous poser des questions, vous pouvez vous manifester et on vous passera le micro, bien sûr. Et si vous voulez vous lever pour danser, vous pouvez aussi, hein, bien sûr, je pense que c'est autorisé. Il y a toujours deux raisons de faire quelque chose. Alors, par exemple, faire une thèse, effectivement, pour quelqu'un qui représente la contre-culture comme dans la bande dessinée, c'était important pour quelle raison au pluriel?
Ah ben alors là, il y en a plus que deux, oui.
D'une pour part, participer à la reconnaissance de la bande dessinée, la légitimation culturelle, justement, c'est paradoxal si la bande dessinée est contre-culture.
Ah ben, le paradoxe, ça fait partie de mon sujet. Hein. Donc, ça, c'est... Le paradoxe et l'équivocité, ça fait partie de ma nature et de mon sujet. Et de mes ennuis permanents. Mais, finalement, la thèse, c'était avant tout le finir pour moi, parce que j'ai essayé d'y mettre une synthèse de toutes les réflexions que j'abordais depuis 20 ans à travers divers supports. C'était aussi le fait de faire un travail encadré par l'université, donc qui me permettait de le mener à bien, parce que sinon je n'aurais jamais mené à bien. Donc le fait qu'il soit encadré. Et c'était aussi un remerciement pour l'enseignement que j'ai reçu. C'est-à-dire que j'estime avoir été vraiment transformé par l'enseignement du cursus art plastique de Paris 1 Saint-Charles, qui m'a vraiment éclairé l'esprit quand j'étais jeune monomaniaque débile de BD, il y a longtemps. Malheureusement, il y en a encore des comme ça, et je ne sais pas s'il y a encore des enseignements aussi fous que Saint-Charles pour transformer la tête des gens à ce point, tel que je l'ai été. Mais en tout cas, j'estime avoir reçu tellement de bons de cette structure que je ne pouvais pas m'arrêter. Elle a été arrêtée, cette thèse, plusieurs fois pour des raisons différentes, mais j'ai voulu aller au bout. Pour ça aussi, en remerciement à ce cursus universitaire, en respect à l'enseignement que j'avais reçu, en retour. Et c'est important les retours, c'est important les échanges, même si des fois ils sont compliqués. Même s'ils deviennent impossibles parfois. Là, j'annonce le morceau avant de le passer. Je vais vous mettre une reprise. Vous reconnaîtrez le groupe d'origine, mais pas forcément ceux qui le reprennent. Donc en fait, je ne l'annonce qu'à moitié. Alors, vous avez reconnu le morceau d'origine? Ah, Black Sabbath. Reprise par Steel Paul Bath Tube. Très bon groupe américain. Celui d'avant, c'était Big Black, Steve Albini, une des personnes les plus radicales de tout le monde du rock'n'roll, même s'il produit des merdes des fois, genre Dionysos, putain, il a osé produire Dionysos, alors que c'est un génie, comme quoi le paradoxe est partout.
Justement, parlons de radicalité. Jean-Christophe Menu, quand vous avez créé l'association, vous parliez tout à l'heure de l'état de la bande dessinée à la fin des années 80. Est-ce que vous pouvez exprimer, même si vous l'avez souvent dit, ce que vous pensiez du marché, pour employer un mot commercial, de la bande dessinée à la fin des années 80. Qui, rappelons-le, marque la fin des supports presse.
Je ne sais pas, le marché, c'est un lieu où il y a des légumes, des poissons, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Qui sont emballés dans des papiers journaux.
Il y a autre chose dedans ? Que dire ? Jamais il n'y a été question de se situer par rapport à un marché. Jamais.
Mais c'est intéressant. Je posais la question volontairement, puisqu'on vous a souvent positionné par rapport à cette question-là, et pas des questions esthétiques, ce qui est ridicule.
Exact. Mais de toute façon, il y a plus de gens qui sont intéressés par les ragots qui tournent autour de la structure que par les livres eux-mêmes. Donc ça, c'est un fait. Est-ce que c'est humain ? Est-ce que c'est dans la nature humaine de plutôt s'occuper des trucs emmerdants plutôt que des œuvres ? Eh bien, admettons-le.
C'est le propre de tous les microcosmes, en fait. Ça génère sans doute ça,
Peut-être.
Des regards un peu étranges, effectivement.
Je ne connais pas forcément tous les autres microcosmes. Mais il est de fait que celui-là est particulièrement vénéneux parfois. Et
oui, ce qui est
un aspect, à la longue, c'est fatigant. Quoi.
C'est un aspect du milieu de la bande dessinée qui n'est pas souvent évoqué. Parce qu'on, le milieu de la bande dessinée à l'image est plutôt sympathique, avec des auteurs sympathiques,
ouais,
accessibles,
c'est ça, ouais.
etc. Non, mais c'est ce que les gens pensent.
Je dis mon œil ou je dis mon autre chose ?
Tu peux dire ce que tu veux. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez, pardon. Bon, c'est pas très intéressant. Parlons plutôt des œuvres. Donc pourquoi avoir créé l'association ? C'était d'abord parce que c'était des livres, je dis bien des livres, qui n'avaient pas leur place dans d'autres catalogues ? L'éditeur existant ?
Bah, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, il fallait créer une structure. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à plusieurs qui étaient très dissemblables vouloir faire exister quelque chose. Et on a réussi à tenir la...
Expliquons, Futuropolis venait de s'arrêter.
Oui,
presque.
Grosso modo, il n'y avait plus de presse.
À suivre était moribond.
Metal était mort, Arakiri était mort. Bref, pour faire exister... une bande dessinée un peu expérimentale et un peu alternative, il n'y avait plus grand chose du tout. Donc, et moi à l'époque je pensais que c'était mort, je pensais que c'était fini, qu'il n'y aurait pas de rebond. Et je pensais que l'association, puisque j'avais déjà vécu quand même de longues années de fanzina et de militantisme, etc., je pensais que l'association serait un truc de pépé, quoi. C'est-à-dire, on est prof, on est illustrateur, on vit comme on peut, et puis le dimanche, on fait des livres, et puis on en fait deux par an. Voilà. Il se trouve qu'il y a eu une empathie avec un lectorat, qui a eu un succès, ensuite il y a eu un best-seller, donc qui a généré un grossissement de la structure, des embauches, etc., et donc que tout ça est devenu assez gros, assez énorme, mais contraire complètement à l'idée de départ. Et il se trouve qu'aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a, on va vers une forme de décroissance qui rejoint finalement l'idée de départ. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? J'en sais rien, mais... quand je vois la surproduction aussi bien des nouveaux éditeurs indépendants que des faux labels soi-disant indépendants, des gros éditeurs qui produisent à l'appel et à l'appel, je ne me sens pas là-dedans, moi. Je ne me sens pas du tout et je n'ai pas du tout envie de me retrouver de manière forcée en concurrence avec des gens qui nous auront... pillés.
Alors là, je suis emmerdé avec ma case parce que
vraiment le crayonné, enfin le brouillon est mieux, quoi. Et là, j'ai changé de position pour les mains, là, au niveau du crayonné, c'est moins bien. Donc, je vais essayer de retrouver l'esprit de ce que j'ai fait au début là, par rapport à ça, parce que je trouve ça mieux que ça. Voilà. Dans le genre.
Mm-hmm. C'est drôle parce que dans l'exposition, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Möbius.
Pas encore.
Les carnets sont absolument fascinants et toujours meilleurs en fait que la planche finie. C'est le jaillissement comme ça de l'idée et du trait est plus vibrant, plus fort dans le premier jet. C'est bizarre.
Y a beaucoup de dessinateurs qui disent ça, que le premier jet est toujours meilleur. Et ça pose le problème de la réalisation industrielle de la bande dessinée, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit recommencer dans un cadre un peu scolaire, de crayonné, encadrement, à la règle, ancrage, etc. Enfin bref, moi j'ai été éduqué là-dedans parce que j'ai lu des choses qui me disaient qu'il fallait faire comme ça quand j'étais jeune. Mais quand j'étais petit, par contre, je faisais des bandes dessinées tout seul, sans crayonner, au feutre. Et elles étaient meilleures que ce que j'ai fait après, avec des crayonnés, etc. Donc, il y a dû avoir une espèce de désapprentissage, de déni de cette espèce de technique... Oui, d'école un petit peu, c'est-à-dire une bonne bande dessinée, c'est un scénario bien charpenté, on trace ses cadres à la règle, on fait un crayonné, on encre, on gomme. Et en fait, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne du ricochet, quoi.
C'est intéressant ce que vous disiez sur le désapprentissage, parce que tous les enfants savent dessiner finalement, et c'est peut-être une des rares pratiques de l'enfance qui n'est pas... Il y a le jeu aussi bien sûr, mais qui n'est pas cultivée par les adultes, c'est bizarre. C'est une activité auquel beaucoup renoncent, alors qu'on l'a tous pratiqué.
Ce qui pour moi est une bizarrerie, c'est que... normalement, l'être humain, il est destiné à écrire et à dessiner. Et à un moment donné, effectivement, à l'adolescence, il y en a plein qui s'arrêtent de dessiner et qui ne savent plus écrire non plus, d'ailleurs. C'est non seulement bizarre, non seulement inquiétant, mais sujet à grand questionnement. Parce que moi, je rêve d'une société humaine où tout le monde dessine. Et un des livres publiés par l'association qui s'appelle X-Ville, du néo-zélandais Diana Rox, imagine l'utopie d'une île où tout le monde communique par la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est le langage normal. Si on va chez le coiffeur, il y a des fanzines autobiographiques de tout le monde. Si on va à la bibliothèque, il y a que de la bande dessinée, etc. etc. Et cette utopie-là, c'est le fantasme d'un dessinateur parmi d'autres et parmi nous tous qui rêve de que ce langage soit normal, parce qu'il l'est. Et en même temps, c'est une utopie qui commence à devenir réalité, parce que paradoxalement, au fait que commercialement, la bande dessinée se situe dans un, que ce soit un peu de pire en pire, paradoxalement à ça, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ce langage très jeune. De plus en plus. Énormément. Alors parfois c'est génial, parfois c'est juste normal, mais ce qui est significatif, avant tout, c'est que ça devienne un second langage qui passe dans les mœurs pour de vrai. Et ça, c'est récent. C'est, je dirais, ça a une dizaine d'années, quoi. Et donc, c'est plutôt très, très, très positif et porteur d'optimisme.
Dit-il d'un air triste.
Ouais, je ne l'ai pas super bien fait.
Vous avez eu un groupe ou pas de rock?
Pardon?
Vous avez joué dans un groupe ou pas du tout?
Chanté, ouais.
Chanté?
Enfin, comme
oui,
ça.
Oui, 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 oui. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez
je
pas.
Je l'ai écorché, je suis désolé, je pensais le faire bien.
Mais c'était punk, c'était bien. Pas de questions? Vous êtes sûr? Si, voilà.
Bonsoir, ça
bonsoir.
Marche?
Oui.
Oui. J'avais des questions par rapport à... Enfin, une question, moi j'avais découvert... en fait, quand j'ai découvert l'association, c'était au début des années 2000. J'avais trouvé plein de trucs qui me passionnaient, donc dès que je trouvais l'association marquée, je lisais et tout, quoi. Et j'avais découvert notamment Lou Bapo, qui m'avait vraiment fait halluciner. Qu'est-ce que ça devient? Ça continue? Il y a des trucs qui sortent? Enfin, il n'y a plus de trucs qui sont édités depuis un moment à l'association. Mais est-ce que ça travaille encore ou pas à Lou Bapo?
Lou Bapo a vécu le même genre de problèmes humains que l'association. Donc ça a créé des soucis. Mais Lou Bapo n'est pas du tout en berne. Il y a des gens qui travaillent. Les principales chevilles ouvrières de Lou Bapo, Yoren Guerner, François Hérol, Étienne Lécroix, n'arrêtent pas de faire des choses oubapiennes. Et il y a des gens nouveaux qui font de Lou Bapo, et puis même, tout le monde fait de Lou Bapo. Et un événement comme Pierre-Feuille-Ciseau, qui a eu deux éditions en 2009 et en 2010, en organisant des résidences d'auteurs à la Saline Royale d'Arcachon, complètement basée sur Lou Bapo. Et ça veut dire que c'est absolument pas fini. C'est même, je dirais, encore plus en train de s'ouvrir qu'avant. Mais là encore, il faut séparer le groupe de base du projet et des potentialités futures. Mais malheureusement, je ne pouvais pas être à la deuxième édition, mais la première édition de Pierre-Feuille-Ciseau était vraiment très, 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 très intéressante, très riche, parce que quand on se retrouve pendant une semaine avec des auteurs qu'on ne connaît pas forcément très, très bien, et puis qu'on se donne des contraintes et qu'on travaille ensemble, et que le public il arrive seulement le week-end pour voir ce qui a été fait, c'est ce genre d'événement qui, moi, me donne envie de continuer de la bande dessinée, en tout cas.
Et il y a un moyen de trouver ces œuvres en cherchant Bapo? Je sais que ce n'est pas évident. Moi, j'avais découvert les 4 tomes de les 4 opus à l'association. Il y a des recueils qu'on peut trouver.
Ce dont je parle là, ouais. c'est pas du tout édité.
C'est pas édité, oui.
Ça pourrait faire un opus 5 à l'association, effectivement, si les conditions étaient réunies.
Oui, moi je voulais poser une question sur votre vision, le parallèle entre la BD indépendante et la musique indépendante en ce moment, mm-hmm. et en particulier en France. Mm-hmm. Parce que vous parliez qu'il y a une surproduction certaine de la part des soi-disant labels indépendants en BD. Mais j'ai quand même l'impression que malgré tout, il y a un paquet de petits éditeurs et énormément de nouveaux auteurs. Et pour en ce qui concerne la musique en France, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose, que ça a rarement été aussi actif que depuis le début des années 90 en France. Et...
En musique ?
Oui, en musique.
Ah oui. Ouais. Moi, j'ai pas cette impression là.
Ben,
c'est parce que je, peut-être je connais pas assez bien.
Enfin, pour être un peu dedans, oui, il y a quand même énormément de structures, que ce soit au niveau des labels, et puis il y a oui. plein de groupes nouveaux. Et, donc, bon, après, la tendance est un peu à se plaindre tout le temps dans ce milieu-là, mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que le circuit underground, que ce soit en musique ou en BD, s'est évolué avec les contraintes économiques et politiques actuelles.
Alors, peut-être que je suis pris en défaut parce que je connais peut-être trop mal la scène musicale dont tu parles, mais le fait est que c'est vrai que par affinité personnelle, j'ai toujours eu un côté, enfin un regard plus du côté anglophone que de ce qui se passe ici, ce qui est un peu con, mais c'est comme ça. Et donc je vois vraiment bien l'équivalence possible entre ce que peut faire certains éditeurs indépendants comme l'association et des labels américains, par exemple, comme Alternative Tentacles, IPCAC, Touch and Go, Load, la liste est longue. Mais c'est vrai que je pêche peut-être pour ne pas connaître assez bien ce qui se passe à l'heure actuelle avec des labels en France. Même si j'ai l'impression aussi que musicalement, c'est surtout une forme d'électro qui est
mise. Moi, je parle rock indé.
Toi, tu parles
a priori
rock.
Vraiment dans ce que vous écoutez. Hein, donc,
d'accord.
Mais bon. Et sinon, sur l'état, enfin plus aussi sur pour rebondir par rapport donc plus, peut-être plus au niveau de la BD, mais sur l'état de santé de la BD underground, qui me semble finalement pas en si mauvaise santé que ça.
Alors ça, c'est très 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 compliqué comme question.
Parce que bon, vous parliez de problèmes à l'association, je ne sais pas si c'est financier, mais...
Il y a à la fois une surproduction de livres et une baisse manifeste des achats de livres. Donc où est-ce que ça peut mener? Je ne sais pas.
Bah, la fermeture de librairies en province notamment. Ça arrive de plus en plus.
Par exemple.
Oui, mais le circuit indépendant est peut-être indépendant de ce fait-là, justement.
Alors, ça dépend de quelle indépendance on parle. Parce que,
je parle de petits éditeurs.
Oui, mais ça dépend de quelle taille de petits éditeurs. Parce que dès qu'il y a des contingences... genre salarial, genre charge, etc. On n'est pas dans le même cas de figure que si on est dans le bénévolat, par exemple. Donc, petits éditeurs, il y a petits éditeurs et petits éditeurs. Les gros éditeurs, on sait ce que c'est. Mais les petits éditeurs, il y a aussi une taxonomie différente.
Ouais, mais par exemple, enfin, désolé si je m'éternise, mais... C'est, par exemple, à l'association, vous dites que vous reposez principalement sur Persepolis, mais est-ce que ce n'est pas un peu le cas des Roquins Marteaux avec Pinocchio et d'Atrabile avec des pilules bleues ou, enfin, il y a des salariés dans toutes ces structures-là. Donc,
pas chez les Roquins, je ne crois pas.
Je crois qu'ils ont... Non, oui, ouais. Il y en a peut-être un, ouais, mais bon, ouais. Oui, effectivement. C'est...
Bah, le problème, est-ce que c'en est un? Enfin, oui, c'en est un. Ça peut en devenir un. C'est que le best-seller, par exemple, comme Persepolis pour l'association, finalement, c'est un accident. C'est pour l'association, ça n'a été qu'un livre normal à la base, et qui devient un truc énorme. Bon, un truc tellement énorme qu'il faut le gérer en embauchant plus de gens, en créant une structure de diffusion supplémentaire, etc. Mais à l'arrivée, un best-seller, il a une fin de vie aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Voilà.
C'est vous qui me le dites.
Ben non, les trois petits points que j'ai laissés laissent entendre ce qui se passe. Parce que, voilà, c'est le genre d'accident qui est à la fois est extrêmement positif, parce que c'est glorifiant pour tout le monde, ça permet d'éditer des choses incroyables, ça permet d'embaucher des gens, etc., etc. Mais quand ça baisse, here the trouble begins.
Peut-être ce sera peut-être le morceau de la fin, peut-être si. Sauf si non.
Ah non. D'autres
questions.
C'est pas celui-là le morceau de la fin.
Ah bon, d'accord.
Mais on peut parler sur celui-là.
D'accord. Monsieur, allez-y.
Bonsoir. 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 Est-ce que vous avez déjà fait une suite à Médère? Moi, j'ai adoré Médère. Est-ce que vous auriez gardé des dessins?
Eh bien, j'en ai fait une la semaine dernière, en fait. Pour la future carte de vœux de l'association de 2011, qui est un mini-lapin, un mini-lapin 44 bis, où il y a 32 pages. Et en fait, il n'y a que la nouvelle génération de lapins dans cet objet. Et comme il manquait une page, j'en ai fait une. Et je ne l'ai pas signé. Et bizarrement, il y a beaucoup de contributions qui se sont centrées autour du personnage de Pifou, qui est un personnage relativement, notoirement connu pour sa profonde débilité sur la bande dessinée franco-belge.
L'auteur est mort l'année dernière, hein. C'est peut-être pour ça. Hein. Roger Mas, à pas confondre avec Francis Mas, évidemment.
Tout à fait, mais ça peut faire office d'hommage aussi.
Oui.
Et donc j'ai fait un mélange de Pifou et de Médère. Donc il s'appelle Pif Moudère. Et j'étais content de réussir à faire une page aussi lamentable que quand j'avais 20 ans.
Merci.
Peu de questions hein, ce soir. C'est la musique peut-être qui. On n'ose pas trop poser de questions.
Bonsoir. Tout à l'heure, vous parliez de petits éditeurs et de bénévolat. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas eu, au contraire des éditeurs, une explosion du bénévolat, justement, avec Internet et des choses comme ça, qui fait que. Même s'il y a moins d'éditeurs, il y a plus de mouvement qui se fait quand même.
Ben, là, on parle complètement de deux choses différentes. Entre le milieu de l'édition et puis Internet, il y a évidemment des passerelles. Mais bon, moi, je suis de la vieille école et pour moi, un livre, c'est sur papier, c'est fait chez un imprimeur, c'est... Ça réclame une certaine technologie et ça n'a rien à voir avec un blog que n'importe qui peut balancer le matin sur Internet. Donc, bénévolat dans l'édition, ça a un sens. Bénévolat sur Internet, ça n'en a pas, pour moi.
Une autre question par rapport à, au travail qu'il y a eu à l'association sur les rééditions de, d'ouvrages anciens, Jean-Claude Forest, ce genre de choses.
Ouais.
Où c'est pareil, ça avait été découvertes, enfin des claques monumentales. Il y a d'autres perles comme ça qui sont en préparation ou qui pourront se faire ou qui ne pourront pas se faire et que c'est dommage.
Si l'association continue, elle continuera à avoir cette part de patrimoine, évidemment. Mais parmi le programme de départ qui avait été défini, je pense que les choses les plus importantes ont été faites à mes yeux, même si j'aimerais faire un GB par an, parce qu'il reste énormément de GB à éditer. Et qu'il reste plein de Forest à rééditer, et qu'il faut rééditer Pellart, et qu'il y a énormément de choses à faire.
Et copie, qui s'intéresse à copie maintenant? Parce que
c'est une question. Bah, moi.
Moi aussi, mais en tant qu'éditeur, c'est un projet qui vous intéresse. Moi aussi, j'aime beaucoup copie, mais on n'en trouve plus. Hein.
Faut vraiment... Non, c'est complètement en dehors des circuits, oui.
Le théâtre de copie continue à être joué, plus probablement que son vivant, mais pas, ouais. Pas les livres.
Non, mais c'est pas le seul exemple. La bande dessinée est comme un art sans mémoire, en fait, et on perd les choses. Copie, par exemple, oui, il est en train d'être oublié. Mm. Mais ce que je constate aussi, c'est que il suffit d'une génération pour oublier tout le monde. Dans ce milieu-là, enfin dans ce milieu, dans cet art-là, les jeunes auteurs que je vois de Lapin ne connaissaient pas Forest, ne connaissaient pas GB. Ils les ont redécouverts grâce à l'association, ils ne connaissaient pas Bazooka. Donc il y a un travail de mémoire permanent à faire. Et ça me semble une des missions de l'association. Une mission incontournable. Et si l'association doit devenir plus institutionnelle pour ça, si elle a le moyen de le faire, je pense que c'est une de ses raisons d'être, effectivement, si j'ai bien répondu à votre question, monsieur.
Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres éditeurs qui font ce travail-là? Enfin, je sais que les rêveurs ont fait un peu de réédition dans Quichotte ou Pinocchio, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver d'autres éditeurs qui font du travail patrimonial à cette qualité-là.
Ben, si, Frémok a réédité Alex Barbier, Breccia, Rackham aussi a réédité Breccia. Les rééditions, elles se font toujours. Le patrimoine, il est entretenu par les éditeurs indépendants. Il n'est pas entretenu par les grands éditeurs. Prenons un éditeur comme Casterman qui est sur la place publique. Il a un patrimoine énorme, mais quand il fait des rééditions, il les massacre. Il fait n'importe quoi avec. Donc c'est un problème. Parce qu'il ne s'agit pas de rééditer à tort et à travers non plus. Il s'agit de faire les choses bien. Il s'agit de respecter les auteurs, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Il s'agit de respecter le travail qui a été fait. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que le disque que vous allez passer soit le dernier, peut-être. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là, un petit peu plus.
C'est comme le public le veut. S'il n'y a pas de questions, je passe le dernier morceau que je comptais passer. Et que je comptais passer pour...
S'il y a une question avant, alors peut-être on...
Oh, tu es là.
Oui, un peu de provoque, peut-être. On est à Beaubourg, après tout, et j'ai découvert l'annonce de cette soirée en compulsant, enfin, en regardant le catalogue Beaubourg. Je suis abonnée à Beaubourg. Et tout d'un coup, je vois la BD Jean-Christophe Menu rangée au rang de l'art. Donc, tout à l'heure, tu l'as évoqué, tu as dit c'est un art qui s'oublie, ou je ne sais plus, enfin, dont on perd la mémoire. Donc, pour toi, il n'y a pas de doute. La BD, c'est de l'art, avec un grand A. La preuve, ce soir, à Beaubourg.
Je ne sais pas répondre à cette question.
Ouais, c'était pour t'embêter aussi un peu.
C'est... soit c'est de l'art, soit c'est du sous-art, soit c'est du sur-art, mais il faut savoir ce que c'est que l'art. Aujourd'hui, en 2011, c'est bien ça le problème. Si l'art, c'est l'art contemporain établi qu'on trouve au Palais de Tokyo, je pense que la bande dessinée lui est infiniment supérieure. Si l'art, on se réfère aux grands classiques, à ceux qui ont vraiment pensé et donné d'eux, alors peut-être la bande dessinée est encore un petit peu en retard. Donc il faut savoir où on se situe, quoi. Ce qui est sûr, c'est que la bande dessinée, c'est un langage. Et c'est un langage qui, fondamentalement, n'a absolument rien à envier à d'autres langages comme la littérature ou la peinture, par exemple. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. C'est quoi la deuxième partie de la question ?
Je ne ferai pas de hiérarchie entre l'art contemporain que tu dis établi au Palais Tokyo. Je sais pas, moi j'ai vu une expo récemment. Qui
non, mais il y a des choses très bien là-bas.
Absolument génial.
Bien sûr.
Voilà, et l'art classique qui serait dans une beauté éternelle et dans un canon. Voilà. Par contre, sur quand tu parles, tu dis la BD, c'est un langage au même titre que la littérature ou la peinture. Ça, c'est quelque chose que j'entends. Ouais.
J'ai pas voulu dénigrer l'art contemporain. Il y a énormément de choses que j'aime dans l'art contemporain. Ce que je veux dire, c'est que y a des canons établis. Qui mettent publiquement en valeur des choses plus que d'autres. Et la bande dessinée est toujours sous-valorisée par rapport à bien d'autres choses. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai rien contre le Palais de Tokyo. J'ai rien contre Bobo non plus. Nom de Dieu.
Je pense qu'il y a danger à se poser des fausses questions. Danger de peut-être se retrouver dans un lock groove, justement, de finir au bout du sillon à tourner en rond. Et tourner en rond sans qu'il y ait forcément de la musique à l'intérieur. C'est un peu le sentiment, si vous me permettez, et ce n'est pas du tout par méchanceté, mais j'ai besoin de le dire. Après tout, on est à Beaubourg, comme on disait. Que cette conférence a un peu tourné au log groove un peu, comment dire, désincarné de passion. Jean-Christophe, tu es quelqu'un d'habité par la passion, quoi. Et c'est pour moi la seule chose qui est importante, de débattre si la BD c'est de l'art ou pas de l'art. On s'en fout complètement. L'important, c'est de faire les choses avec passion. Je regrette un petit peu, si je puis me permettre, d'avoir découvert un monsieur Benoît Mouchard que je ne connaissais pas, qui a posé une série de questions, mais d'un air tellement dépassionné qu'on se demandait...
Non, je suis très fatigué, monsieur, c'est différent.
Ah bon ?
Oui, je crois. Vous savez, j'ai un petit événement dans 10 jours, en fait. Et c'est un peu bizarre que je sois là, en fait, ce soir. C'est la seule chose.
D'accord, mais je ne vous demande pas de vous justifier.
Je ne me justifie pas, je vous réponds.
Je fais simplement un état de la sensation que j'ai.
Non, je ne sais pas qui c'est.
Et du coup, ben, simplement, voilà, je voulais dire que la seule chose qui doit nous habiter les uns et les autres... C'est cette passion qui fait que justement, ben, on peut s'en foutre des histoires de marché, on peut s'en foutre de savoir si la bande dessinée se vend bien ou se vend mal, il y a de la place pour exprimer des choses et on ne doit pas catégoriser les choses. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges d'hiérarchiser art, BD, peinture, gravure, illustration. Finalement, c'est une des chances qui nous est donnée, je trouve, dans l'époque qu'on vit, c'est que des passerelles formidables, et c'est un petit peu ce que j'espérais qu'on débattrait ce soir quand il était question de territoire de bande dessinée, c'est le territoire de la bande dessinée comme le territoire de la peinture ou de toute une série d'arts différents sont des territoires qui sont en train de s'ouvrir et entre lesquels des passerelles sont créées. Ce qui fait que, par exemple, il y a en bande dessinée de très grands peintres, il y a de très grands graveurs, il y a de très grands illustrateurs. Et je trouve que c'est peut-être ça qu'il faut essayer de retenir plutôt que de savoir si on a affaire à de l'art ou pas de l'art. La passion. Et la musique et la musique.
Eh ben oui, c'était plutôt Benoît Jacques qu'il fallait inviter que moi. Merci Benoît.
Musique.
Tu nous avais promis un dernier morceau.
Oui.
Un morceau pour vous faire chialer, je vous avais prévenu. Ah bah une question, d'accord. De toute façon, le morceau pour chialer, il est là, il vous attend. Hein.
J'ai entendu dire que Kilofer et Trondheim préparaient un livre sur l'association. Et je voulais savoir si vous alliez participer.
Je ne me sens pas obligé de répondre à cette question. Effectivement, il y a un projet de livre qui s'appelle L'Association, censé sortir chez Champoint et parler de l'association. Il est évident que je n'y participerai pas.
C'est un langage, après tout.
Enfin, moi, je vais juste intervenir. Pardon, Jean-Christophe. C'est peut-être que cette rencontre a été un peu désincarnée, mais elle est quand même dans un contexte qui ne vous aura pas échappé, extrêmement particulier, en dehors du fait qu'on est à 15 jours du festival et qu'effectivement, je ne suis pas au mieux de ma forme. Mais cette rencontre a failli être annulée. Hein, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, mais voilà. Donc, merci à Jean-Christophe d'être là. Mais moi, j'avoue que je n'étais pas particulièrement à l'aise. C'est vrai, je le dis. Parce que j'ai l'impression de marcher sur des œufs et je pense que cette question qui est innocente, hein, qui est pas, je pense qu'elle est pas forcément. Enfin, je pense que tu n'as pas à y répondre effectivement. Là, je tutoie et que je pense que c'est pas le lieu de parler de ça effectivement, mais qu'on a tourné un peu autour parce que c'est voilà ce qui se passe. Je sais pas s'il faut en parler maintenant. Est grave, je pense, pour la bande dessinée puisque vous demandez de m'exprimer personnellement de manière incarnée. Et que effectivement, je crois que ton travail c'est de faire des livres, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant qu'éditeur, et que les questions du microcosme, à savoir les petites histoires de guerre entre les uns et les autres, qui sont justifiées ou pas, je me positionne pas là-dessus, je connais pas toute l'histoire, mais je pense que c'est pas effectivement, c'est pas à toi de parler de ça.
Justement, là, je parle de livres. C'est ça qui est.
Mais peut-être qu'il y répondra en faisant un livre, c'est possible.
Justement, il y a un livre.
Mais un livre qui dénigre. Le but de ce livre, c'est de dénigrer l'association, vous le savez.
Pas forcément. On le verra. On le verra. Il est parti sur des mauvaises bases. Mais moi, que des gens proches de l'association, qui aient eu un vécu avec l'association, fassent un livre sur l'association, ne me dérange pas. Du moment qu'il ne porte pas préjudice à cette histoire qui s'appelle l'association. Mais il est évident que le label Champoint ayant été une des principales manifestations d'ersatz de l'association récupérée par des gros éditeurs, je ne pouvais pas y participer. Ce livre, il était prévu pour Angoulême. A priori, il a été annulé. On verra s'il existe. On verra ce qu'il contient. Ce sera un livre. Voilà.
Non, mais ça, c'est vrai que ça aurait été intéressant, justement, cette dialectique
en bande dessinée et puis aussi de la part d'auteurs qui ont été tous investis dans cette histoire et qui ont du coup vraiment...
L'association a publié en juin un livre sur ses 20 ans. Mmh. Il y a 85 auteurs dedans. Ils ont chacun fait une planche. Il y a 3 générations d'auteurs dedans. Je pense que la réponse est déjà donnée avec ce livre. Il suffit de le regarder. Il suffit de la voir.
Moi, je voulais juste savoir, puisque apparemment, votre activité en tant qu'éditeur semble être un peu floue, savoir quelle était encore votre motivation en tant qu'auteur. Et bon, par exemple, moi, j'ai acheté de suite les deux Loggrove parce que bon, ça me parle vraiment. Et c'est vrai que celui-là a mis un peu de temps. Alors, bon, j'imagine qu'une thèse aussi, ça prend pas mal de temps, etc. Je voulais savoir où vous en étiez, point de vue inspiration, et puis s'il y avait encore le désir de continuer vraiment en tant qu'auteur, ou si vous êtes plus désormais dans l'édition.
Ben, moi, je suis un auteur. Et,
auteur par défaut.
Et j'aime faire des projets éditoriaux avec des auteurs. Tout ce qui est autre, c'est-à-dire l'aspect entreprise, l'aspect juridique, tout ça, me casse profondément les burnes. Et je voudrais m'en débarrasser à jamais. Donc, pour moi, faire une planche, faire un livre, chanter comme un con, comme j'ai fait tout à l'heure, tout ça, c'est la même chose. C'est de l'art. Quand on rentre dans le milieu de l'entreprise et qu'on est face à des impératifs qui nous échappent, c'est autre chose. C'est différent. Et ça, normalement, c'est pas mon travail. Et ça, ça m'occupe beaucoup trop. Donc, un de mes buts, c'est d'être beaucoup plus auteur désormais. Oui. Je vous montre là, de temps en temps, des pages hein, du prochain Loggrove. Il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Il n'y en a que 6-8. Pas assez pour le sortir. Il ne sortira pas pour Angoulême. Il était annoncé pour Angoulême. Justement, à cause de tout ce bordel, pas pu le finir. Voilà. 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 Question.
Non, on pense qu'on va arrêter là. Merci Jean-Christophe beaucoup d'être venu.
Merci Benoît.
Et merci pour la musique aussi. Et donc le dernier morceau, on peut le désannoncer avant peut-être. Ça se dit pas, mais enfin.
Eh bien, je vais vous passer un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Some Velvet Morning. Non pas dans sa version initiale par Nancy Sinatra et Elia Zellwood, mais par Rowland Howard et Lydia Lunch. Et vous avez intérêt à chialer. Merci. Et une petite citation pour finir. Lonely people burn like candles, only we are clean. King Volcano gave me numbers, King Volcano is clean. Merci. Benoît, Barbara, vous partez pas sans me voir. Hein.